À mesure que les jours passent, vous devenez de plus en plus irréel, de plus en plus étrange et éloigné de ce que je deviens moi-même. Je suis la seule réalité, et en vous écartant de moi, vous perdez votre propre réalité. Plus je deviens curieux, moins ceux qui me vénèrent le sont eux-mêmes. La religion abolit la curiosité. Ce que je fais retranche à mes fidèles. Voilà pourquoi je finirai par ne plus rien faire, par tout restituer à des gens apeurés qui, ce jour-là, se retrouveront seuls et forcés d'agir seuls. Les mémoires volées. C'était un bruit à nul autre pareil. La rumeur d'une foule en attente répercutée dans la longue galerie où marchait Idaho en tête du chariot royal. Tous les chuchotements amplifiés en un seul. Le déplacement d'un seul pied de géant. Le froissement d'un unique vêtement énorme. Et l'odeur. Transpiration suave mélangée à la laine laiteuse de l'excitation sexuelle. Inmeir et le reste de son escorte avaient ramené Idaho à l'aube. L'orni s'était posé directement sur la place de la cité festive, entouré d'ombres vertes et froides. Puis il avait redécollé aussitôt, emportant Inmeir visiblement désolé d'avoir à conduire Siona jusqu'à la citadelle et de rater ainsi la fête du Sieinok. Une nouvelle escorte de truites, vibrante d'émotions contenues, était venue chercher Idaho pour le conduire dans des régions souterraines qui ne figuraient sur aucune des cartes que le Duncan avait pu consulter. C'était un véritable labyrinthe situé sous la place. Il fallait sans cesse changer de direction dans des galeries assez hautes et larges pour laisser passer le chariot royal. Idaho avait vite perdu tout sens de l'orientation et s'était mis à repenser à ce qui s'était passé la veille. Quand Siona et lui étaient redescendus à Goigoa, on leur avait indiqué l'emplacement de la maison d'accueil où les chambres disposées en enfilade le long d'un corridor étaient dotées d'un confort spartiate. Deux lits, une fenêtre, une porte, des murs peints à la chaux. Et Siona ne s'était pas trompée. Sans leur demander leur avis, on les avait logés ensemble. Inmeir avait fait comme si cela était entendu depuis le début. Quand Idaho avait refermé la porte, Siona lui avait dit « Je vous avertis que si vous me touchez, j'essaierai de vous tuer. » Elle avait prononcé ces mots avec une sincérité si candide que le Duncan avait failli en rire. « J'aurais préféré être seul, » avait-il répondu. « Faites comme si je n'existais pas. » Il avait dormi d'un sommeil circonspect qui lui rappelait curieusement les longues nuits de danger au service des Atréides, quand il fallait être toujours prêt au combat. L'obscurité n'était pas totale dans la petite chambre. Il y avait le clair de lune qui pénétrait par les tentures, ou même la clarté des étoiles reflétées par la blancheur des murs. Idaho se sentait nerveusement réceptif à tout ce qui venait de Siona. Son odeur, le bruit de sa respiration, le moindre de ses mouvements. À plusieurs reprises, il s'était trouvé pleinement éveillé, tendant l'oreille, certain par deux fois qu'elle aussi était en train de tendre l'oreille. L'arrivée du matin et le départ pour On avaient été un soulagement. Ils avaient déjeuné d'un jus de fruits glacés et Idaho avait été ravi de rejoindre l'orni d'un pas vif dans le crépuscule du matin. Il évitait d'adresser directement la parole à Siona et se sentait sourdement irrité par les regards curieux que lui adressaient les truitesses. Siona ne lui avait parlé qu'une seule fois, à leur arrivée sur la place, tandis qu'il descendait de l'orni et qu'elle se penchait à la portière. « Cela ne m'offenserait pas d'être votre ami ?» Curieuse façon de formuler la chose. Il en avait ressenti un vague embarras. « Oui, certainement, » avait-il bredouillé. Sa nouvelle escorte était venue le chercher alors, et il avait parcouru le dédale de galeries avant d'arriver à l'endroit où l'attendait Leto sur son chariot royal. Il s'agissait d'un large rond-point d'où partait sur la droite un autre corridor dont les murs convergeaient avec la perspective. Les parois du rond-point étaient d'un brun foncé zébré de rayures dorées qui scintillaient à la lueur jaunâtre des brilleurs. L'escorte prit position derrière le chariot laissant Idaho confronté au visage entouré de replis de l'étau. Duncan, tu me précéderas quand nous irons au Sienok, lui dit l'empereur Dieu. Idaho fixa le puits bleu foncé de ses yeux, agacé par le mystère qui imprégnait ces lieux, le secret, l'atmosphère d'excitation que tout le monde ressentait. Et ce qu'on lui avait dit du Sienok ne faisait qu'épaissir le mystère. Suis-je réellement le capitaine de votre garde, monseigneur ? Demanda-t-il d'une voix chargée de ressentiment. Bien sûr. Et c'est un insigne honneur que je t'accorde en ce moment. Peu d'adultes de sexe mâle ont la chance de partager le Sienok. Que s'est-il passé dans la cité la nuit dernière ? Des déchaînements de violence dans certains quartiers. Tout est très calme ce matin. Beaucoup de victimes ? Rien qui vaille la peine d'être mentionné. Idaho hocha lentement la tête. La prescience de l'étau lui avait fait craindre un danger pour son Duncan, d'où la retraite rurale à Goigoa. Tu es allé à Goigoa, reprit l'empereur Dieu. Aurais-tu été tenté de rester ? Non. Tu n'as pas à m'en vouloir. Ce n'est pas à Goigoa que je t'avais envoyé. Idaho soupira. Quel est donc ce danger qui vous a forcé à m'éloigner ?
Tu n'étais pas menacé ?
Mais tu incites malgré toi mes gardes à faire excessivement étalage de leurs capacités. Les opérations de la nuit dernière demandaient moins d'ardeur. Hein ? Cette idée choquait Idaho. Il ne s'était jamais considéré comme capable d'inspirer un héroïsme particulier sans l'avoir demandé personnellement. On pouvait galvaniser des troupes. Certains chefs, comme le premier Leto, le grand-père de celui-ci, inspiraient par leur seule présence.
« Tu m'es extrêmement précieux, Duncan, » murmura Leto.
« Oui, mais je ne suis quand même pas votre animal reproducteur.
Il sera tenu compte de tes désirs, naturellement. Nous discuterons de cela une autre fois. »
Idaho jeta un coup d'œil à l'escorte de Truites, tout alerte et attentive.
« La violence éclate toujours quand vous venez à On ?» demanda-t-il.
« De manière cyclique. Les mécontents sont calmés pour l'instant. Nous aurons la paix pendant un moment. » Idaho fixa de nouveau le visage inscrutable de l'empereur Dieu. « Qu'est-il arrivé à mon prédécesseur ?»«
Mes Truites ne te l'ont pas dit ?
Elles disent qu'il est mort pour la défense de son dieu.
Et tu as entendu un son de cloche différent ?»
Que s'est-il passé ?
Il est mort parce qu'il était trop proche de moi. Je n'ai pas su le mettre à temps en lieu sûr.
Un lieu comme Goigoa ?
J'aurais préféré qu'il y finisse paisiblement ses jours, mais tu sais bien, Duncan, que tu ne recherches pas spécialement la paix.
Idaho déglutit, sentant l'étrange boule qui s'était formée dans sa gorge. J'aimerais tout de même avoir des détails sur sa mort, insista-t-il. Il avait une famille.
Les détails, tu les auras. Et pour sa famille, n'aie crainte. Elle est sous ma protection. Mais je préfère la tenir éloignée de moi. Tu sais comme j'attire la violence. C'est l'une de mes fonctions. Il est regrettable que ceux que j'aime et admire le plus soient condamnés à en souffrir.
Idaho plissa les lèvres, peu satisfait de cette réponse.
Calme un peu tes esprits, Duncan. Reprit l'empereur Dieu. Je te répète que ton prédécesseur est mort parce qu'il était trop proche de moi.
Les truites de l'escorte commençaient à s'agiter. Idaho leur jeta un coup d'œil, puis tourna la tête en direction de la galerie qui montait vers la droite.
Oui, c'est l'heure, dit Leto. Nous ne devons pas faire attendre ces femmes.
Tu marcheras juste devant moi, Duncan, et je répondrai à tes questions sur le Sienok. Obéissant parce qu'il ne voyait rien d'autre à faire, Idaho pivota sur ses talons et prit la tête de la procession. Il entendit le chariot se mettre en mouvement derrière lui dans un grincement de roues, et il perçut le pas des truites qui suivaient. Brusquement, le chariot ne fit plus aucun bruit, et Idaho se retourna, alarmé. Mais il comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Vous avez mis les suspenseurs, » dit-il en regardant de nouveau devant lui.
J'ai escamoté les roues parce que les femmes vont entourer le chariot, expliqua Leto. Je ne voudrais pas leur écraser les pieds. Qu'est-ce que le Sienok?
Qu'est-ce que c'est en réalité? Demanda le Gola.
Je te l'ai déjà dit. C'est le grand partage. C'est une odeur d'épices que je perçois. Tu as l'odorat sensible. Il y a effectivement une petite quantité de mélange dans les
hosties. Idaho secoua la
tête. Cherchant à comprendre l'événement, il avait déjà posé directement la question à Leto au début de leur arrivée à On. Que signifie la cérémonie du Sienok?
Le partage d'une hostie, rien d'autre. J'y participe moi-même.
Comme dans le rite catholique d'Orange?
Oh non. Il ne s'agit pas de ma chair. C'est juste un partage.
Pour leur rappeler qu'elles sont uniquement femelles. De même que tu es uniquement mâle. Mais que je suis tout à la fois. C'est le partage avec le tout.
Idaho n'avait pas tellement apprécié la formule.
Uniquement mâle, dit-il. Sais-tu qui est le brocard à l'occasion de ces festivités, Duncan?
Non, qui?
Les hommes qui les ont offensés. Écoute donc les conversations qu'elles ont à voix basse.
Idaho avait pris cela pour un avertissement. N'offense pas les truitesses. Provoquer leur colère, c'est mettre sa vie en péril. Et maintenant, tandis qu'il marchait dans la galerie devant l'empereur Dieu, le Gola avait l'impression d'avoir bien entendu les mots, mais sans être capable d'en tirer une leçon.
Je ne comprends pas le partage, dit-il par-dessus son épaule. Nous sommes ensemble pour participer au rite. Tu verras. Tu le sentiras. Mes truitesses sont le réceptacle d'une vérité particulière, d'une ligne continue qu'elles sont seules à partager. Mais tu vas y participer bientôt, et pour cela elles t'aimeront. Écoute-les soigneusement. Elles sont ouvertes à la notion d'affinité. Les termes d'affection qu'elles se réservent mutuellement n'ont aucune exclusive.
Encore des mots, songea Idaho. Encore des mystères. Il s'aperçut que la galerie s'élargissait progressivement. Le plafond était de plus en plus haut et les brilleurs de plus en plus nombreux, réglés dans une zone de pourpre orangée. À 300 mètres devant eux, se dessinait une ouverture en forme d'arcade élevée, illuminée d'une riche lumière rouge qui lui permit de distinguer en approchant des visages luisants qui oscillaient lentement à droite et à gauche. Sous ces visages, les corps formaient une muraille uniforme de robes noires. Le Gola perçut bientôt l'odeur forte de transpiration liée à l'excitation collective. Comme il se rapprochait de la foule de femmes en attente, il vit qu'il y avait un passage au milieu d'elle, un plan incliné conduisant à une estrade basse située sur la droite. On apercevait la naissance d'une gigantesque voûte illuminée par des brilleurs rubis.
« Prends la rampe à ta droite, » lui dit Leto.
« Arrête-toi juste après le milieu de l'estrade et tourne-toi face aux femmes. »
Idaho leva légèrement la main droite pour indiquer qu'il avait compris. Il était juste en train de passer sous l'arcade, et les dimensions de la salle intérieure le stupéfièrent. Son regard exercé entreprit d'évaluer la longueur des murs, tandis qu'il grimpait sur l'estrade. Ce hall d'assemblée formait un carré de plus de 1000 mètres de côté, aux sommets arrondis. Les femmes occupaient la totalité de l'espace, et Idaho savait qu'il n'y avait là que les représentantes, à raison de 3 par planète, des régiments de truitesses disséminés dans tout l'Empire. Elles étaient si nombreuses, si pressées l'une contre l'autre, que le Gola se demandait si l'une d'entre elles, défaillante, aurait eu la place de tomber. Elle n'avait laissé qu'un espace libre d'une largeur de 5 mètres environ devant l'estrade où Idaho s'était maintenant retourné, dominant toute la salle. Les visages, un océan de visages, étaient levés vers lui. Leto arrêta son chariot juste derrière lui et leva un bras à la peau argentée. Aussitôt, une clameur rugissante.
« Sienok! Sienok !»
emplit le hall. Idaho en fut assourdi.
Toute la cité devait entendre, se dit-il, à moins qu'ils ne fussent à une très grande profondeur.
« Mes fiancés !» dit Leto.
Bienvenue au Sienok.
Idaho jeta un coup d'œil à l'empereur Dieu. Il vit ses yeux sombres qui brillaient, son expression rayonnante. Leto parlait toujours d'obscénité sacrée, mais à présent il s'y vautrait en plein. Moneo a-t-il déjà assisté à ce genre de rassemblement ? Se demanda le Gola. C'était une curieuse pensée, mais il savait pourquoi elle lui était venue. Il fallait qu'il y eût un autre humain mortel avec qui discuter de la chose. Moneo, lui avait-on dit, était parti régler quelque affaire d'État. Idaho, en apprenant cela, avait eu l'impression de mieux comprendre un élément de la politique de Leto. Les lignes de pouvoir reliaient directement l'empereur Dieu à la populace, mais il était rare qu'elles se croisent. Cela requérait plusieurs choses, en particulier l'existence de serviteurs dévoués qui acceptaient la responsabilité d'exécuter les ordres sans poser de questions. Rares sont ceux qui voient l'empereur Dieu faire des choses pénibles, avait dit Siona. Cela ressemble-t-il aux Atréides que vous avez connus? Tandis que ses pensées traversaient son esprit, Idaho regardait les truites assemblées. Quelle adulation dans leur regard! Quelle crainte respectueuse! Comment Leto avait-il obtenu cela? Et pourquoi? Mes bien-aimés, dit Leto, et sa voix se répercutait sous l'immense voûte portée aux quatre coins du hall par de subtils amplificateurs ixiens dissimulés dans le chariot royal. Les visages luisants des femmes rappelèrent à Idaho l'avertissement de l'empereur Dieu. Provoquer leur colère, c'est mettre sa vie en péril. Il n'était guère difficile en ce lieu d'ajouter foi à cet avertissement. Un seul mot de Leto, et ces femmes se rueraient sur n'importe quel intrus pour le mettre en pièces. Sans poser de questions. Idaho commençait à porter un jugement différent sur les truitesses et leur valeur en tant qu'armée. Aucun péril personnel ne pouvait les arrêter. Elles étaient les servantes de Dieu. Le chariot royal grinça légèrement, tandis que Leto dressait ses segments antérieurs, soulevant sa tête encadrée de replis.
« Vous êtes les gardiennes de la foi !» cria-t-il.
Elles répondirent d'une seule voix.
« Nous obéissons à notre Seigneur !»«
En moi, vous vivez sans fin !» reprit Leto. « Nous sommes l'infini !» J'ai pour vous un amour que je ne donne à personne d'autre.
Amour !
Hurlèrent les truitesses. Idaho se sentit frémir.
Je vous donne mon Duncan, bien-aimé,
continua Leto.
Amour ! Amour !
Idaho tremblait de tout son corps. Il se sentait capable de s'écrouler sous le poids de tant d'adoration. Il aurait voulu en même temps prendre la fuite et rester recevoir cet hommage. L'atmosphère vibrait de pouvoir, d'un pouvoir sans limite. D'une voix plus basse, Leto ordonna
« Qu'on change la garde !»
Les truitesses inclinèrent la tête d'un seul mouvement, sans hésitation. Loin d'Idaho, sur sa droite, apparut une file de femmes en robe blanche. Elles s'avancèrent jusqu'à l'espace libre devant l'estrade, et le Duncan remarqua que certaines portaient des bébés ou de jeunes enfants, mais guère âgés de plus d'un ou deux ans. D'après ce qui lui avait été expliqué plus tôt, Idaho comprit qu'il s'agissait là de celles qui quittaient le service immédiat des truitesses. Certaines deviendraient des prêtresses, d'autres ne s'occuperaient plus que de leurs enfants, mais aucune ne quitterait vraiment le service de Leto. En observant les jeunes enfants, Idaho se disait que le souvenir de cette scène, surtout pour les garçons, demeurerait à jamais gravé dans leur mémoire inconsciente, comme un mystère inaccessible mais qui transformerait toute leur vie. La dernière femme en robe blanche s'arrêta devant l'estrade et leva les yeux pour regarder Leto. Tous les regards étaient maintenant fixés sur l'empereur Dieu. Idaho regarda à droite puis à gauche. Les femmes en blanc remplissaient tout l'espace qui leur avait été réservé devant l'estrade, sur presque toute la largeur du hall. Certaines levaient leur enfant vers Leto. Leur soumission et leur respect étaient absolus. Idaho était convaincu que si l'empereur Dieu l'ordonnait, elles étaient prêtes à immoler leur bébé ici même.
ou à faire n'importe quoi. »
Leto fit rentrer ses segments antérieurs dans le chariot en un lent mouvement ondulant. Ses yeux perçants parcoururent la foule avec bienveillance et sa voix résonna comme une caresse.
« Je vous donne la récompense que votre foi et vos services ont mérité. Demandez et elle sera donnée. »
Le hall entier vibra sous la réponse.
« Elle sera donnée. Ce qui est à moi est à toi, » dit Leto. « Ce qui est à moi est à toi, » crièrent les femmes. « Partagez maintenant avec moi la prière silencieuse pour mon intercession en toutes choses, afin que l'humanité ne connaisse jamais de faim. »
D'un seul mouvement, toutes les têtes s'inclinèrent en avant. Les femmes en blanc serrèrent leur bébé contre elles, les yeux baissés vers lui. Idaho perçut avec une extraordinaire intensité l'unité silencieuse de cette force qui cherchait à l'investir, à le pénétrer. Il ouvrit grand la bouche et respira à fond, luttant contre ce phénomène qu'il considérait comme une atteinte à son intégrité mentale. Il cherchait frénétiquement un point fixe à quoi il put se raccrocher, un abri pour le protéger. Ces femmes constituaient une armée dont il n'avait pas compris jusque-là la cohésion et la force. Il n'était pas en mesure de comprendre cette force. Il ne pouvait que l'observer, reconnaître son existence. Voilà ce que Leto avait créé.